Eh bien, chers frères, l'Église nous propose de méditer le texte de Cana et l'alliance déjà dont parlait Isaïe, une alliance toute humaine et toute divine. Alors, je voudrais voir d'abord cette alliance en elle-même, le mariage tel qu'il est vécu par le Christ ici à Cana, et puis ensuite, dans un deuxième temps, me poser une question particulière, la place de la Vierge Marie dans ce dispositif du mariage. Tout d'abord, le mariage comme sacrement du Christ. Bien sûr, le Seigneur ici est invité, vous l'avez remarqué, et c'est important pour nous. Ce n'est pas le Seigneur qui a créé le mariage. Tous les autres sacrements, le Seigneur, même s'il y a des soubassements, des figures, déjà dans l'Ancien Testament, tous les autres sacrements, notre Seigneur va les créer. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tous les péchés que vous pardonnerez seront pardonnés. Bref, à chaque fois, le Seigneur institue ses sacrements. Et ici, il va instituer un sacrement, bien sûr, mais en venant dans une réalité déjà naturelle, le mariage. Réalité naturelle ne veut pas dire païenne, bien entendu. C'est déjà une réalité inscrite dans la création de l'homme et de la femme. C'est quelque chose de toute éternité voulu par Dieu, cette rencontre qui ferait voir l'image vraie de Dieu. Cette nécessaire disposition naturelle pour que le sacrement trouve une place, un écrin, vous le savez, et j'y ai déjà insisté, il est nécessaire qu'humainement, il y ait déjà cet amour vrai, libre, dans le but de créer une famille. Et il faudrait enlever l'ensemble qui est trop près de... Voilà. Pour créer une famille, éduquer des enfants, engendrer pour toujours, avec fidélité, et dans une union parfaite, comme on l'espère. Voilà cette réalité naturelle que le Seigneur trouve à Cana, et vous avez remarqué que, pour bien montrer l'importance de Marie, on a dit... La Vierge Marie était invitée, alors Jésus avait été invité aussi. On sait déjà par là que le héros de ce mariage, contrairement à tous les mariages, contrairement à ceux que nous allons célébrer, ce n'est pas la mariée dont il ne sera pas question ici. Ce n'est même pas le marié dont il est vaguement question, car on sait qu'on lui adresse la parole, mais enfin, il ne la prend pas. Le héros de cette histoire sera indubitablement la Vierge Marie, et le Christ. C'est dire qu'il manifeste le sacrement, justement, du Christ et de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrement du sacré en action, une action divine dans votre vie. Voilà ce qui est célébré au jour de votre mariage. Dieu qui intervient, Dieu qui agit, Dieu qui fait. Ce sacrement qui vient se poser sur cet amour humain, c'est l'exaucement de la nature jusqu'à Dieu. Ça s'appelle une vocation surnaturelle. On a parfois tendance, avec tort, de penser qu'il y aurait d'aucuns qui ont une vocation naturelle, qui est de se marier, et d'autres qui auraient une vocation surnaturelle, qui serait d'entrer en religion, de devenir prêtre, religieux, religieuse. Non. Tout le monde a dans le cœur cette vocation naturelle, mais d'aucuns entendent sur cette vocation un appel à tout quitter, comme le jeune homme de l'Évangile, et à honorer le Christ dans une vocation purement surnaturelle, qui nécessite quand même une vie humaine naturelle. Mais les mariés, eux, c'est dans leur vocation naturelle qu'ils vont aller vers Dieu, c'est-à-dire que cela va devenir un chemin surnaturel. Si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas un sacrement. Une petite histoire raconte que le grand Lacordaire, un dominicain, grand prédicateur de Notre-Dame, avait vu un de ses amis qu'il espérait bien, tant son âme était magnifique et pure à ses yeux, il l'espérait bien entrer en religion, et certainement peut-être même chez les dominicains. Alors, à l'annonce de son mariage, il avait exprimé une certaine aigreur en disant « Voilà, il s'était détourné de Dieu, il s'était fait avoir, quoi. » Et le grand Lacordaire, en visite auprès du Saint-Père, le pape Pie IX, très très heureux de pouvoir venir baiser les mules du pape, montrer son attachement au chef de l'Église, avait oublié cette histoire. Mais le pape, à qui cette histoire était venue aux oreilles, lui dit « Mon père, vous êtes un grand prédicateur, et j'apprends que vous dites qu'il y a 6 sacrements et un piège. » Alors, pour sa confusion évidemment, mais aussi pour notre édification, le sacrement du mariage est véritablement un sacrement de l'édification chrétienne. C'est vraiment le moyen d'aller vers Dieu. Et, pour citer une servante de Dieu qui m'est chère, Zita de Habsbourg-Lorraine, alors qu'elle venait de se marier, alors que dans le faste de la cour d'Autriche, on venait de déployer son mariage, elle trouve immédiatement l'idée, juste après le sacrement du mariage, en sortant de l'église, de glisser à son mari dans le creux de l'oreille. Eh bien maintenant, notre charge va être de nous mener l'un vers l'autre, vers le ciel. Voilà le chemin du mariage, qui n'est pas un chemin personnel, qui est un chemin à deux, qui est un chemin où on se soutient l'un l'autre pour aller vers Dieu. Et oui, dans ce sacrement, j'espère que vous relirez, vous lirez d'abord, même avant votre mariage, vous relirez si vous êtes déjà marié, la belle préface de la messe du mariage qui dit que les époux vont devenir l'un pour l'autre le Christ. Il n'y aura pas dans toute votre vie, pour vous les époux, de visage plus proche et plus explicite du Christ que celui de votre épouse. Et il n'y aura pas pour vous les épouses de visage plus clair et plus explicite du Christ que celui de votre époux. Voici ce chemin magnifique, ce sacrement incroyable, établi par Dieu pour sanctifier une réalité humaine qui nous mène tout droit vers lui. Voilà ce beau sacrement, et je voudrais alors maintenant m'interroger sur la place de Marie qui semble avoir gommé la place des mariés eux-mêmes. Pourquoi donc, dans ce texte de Cana où nous voyons l'institution du mariage sacramentel, pourquoi n'est-il question que du Christ de Marie ? Vous le savez, la Vierge Marie remarque qu'il n'y a plus de vin et va demander à son fils de faire quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Alors, de grâce, ne croyez pas que Marie simplement s'inquiète pour le service et pense que ça serait bien qu'il y ait du vin, au sens purement trivial du terme. Ou plus exactement, oui, elle se rend compte qu'il manque de vin. Oui, c'est vrai qu'il est dommage de n'avoir pas assez de vin quand on reçoit des invités. Il est dommage, surtout en Orient, de perdre la face, peut-être. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi Marie s'attache-t-elle ? Pourquoi demande-t-elle au Christ ? Pourquoi ne va-t-elle pas chercher les serviteurs pour aller quérir du vin ? Non. Elle y voit là la providence et demande à son fils qu'elle sait être Dieu, qu'elle sait être le Messie venu pour restaurer l'alliance avec Dieu et l'étendre à toutes les nations. Elle se dit, mais c'est le bon moment. Demandons-lui de manifester sa gloire et qu'il y ait du vin, car le vin, c'est une alliance avec Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, vous le savez sûrement, le vin revient, ça et là, dans la célébration de la Pâque, il y a déjà du vin, signe de l'alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël, c'est la vigne du Seigneur, chante-t-on dans les psaumes. S'il n'y a plus de vin à ce mariage, ce n'est pas seulement que ce sera dommage, c'est que cela va redevenir un mariage païen, un mariage sans Dieu. Plus d'union à Dieu, car l'alliance s'essouffle, ou plutôt elle est arrivée à son terme. Alors voilà ce que demande Marie au Seigneur, qu'il restaure tout en Dieu, et notamment ce mariage. D'ailleurs, la réponse du Seigneur est très claire. Mon heure n'est pas venue. Il ne lui aurait pas dit ça s'il avait pensé qu'il s'agissait d'une question purement matérielle. Le Seigneur a bien compris que la demande de la Vierge et de manifester sa gloire et de restaurer Dieu en toutes choses. Alors, voyons la réponse qu'il fait à Marie. J'ai dit que c'était l'héroïne de ce passage, mais c'est une héroïne qui semble un peu maltraitée. Il lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. » D'abord, il l'appelle femme. Ça peut paraître bizarre, on n'appelle pas sa maman, sa mère, femme, même en araméen ou en hébreu. Mais ce faisant, il lui donne un titre tout particulier, une mission. Il appellera sa mère femme ici, à Cana. Il lui redonnera une deuxième fois ce titre incroyable au pied de la croix. Ce n'est pas une condamnation, bien loin de là. Il lui reconnaît une mission, celle de la femme promise dans la Genèse, celle de la femme dont la descendance écrasera la tête du dragon, mais aussi celle de l'Apocalypse qui, une couronne de 12 étoiles sur la tête, ayant la lune à ses pieds, donnera enfin la victoire au Christ sur le monde. En tout cas, la manifestation de cette victoire sur le monde. Voilà le titre de femme qu'il donne à sa mère, que nous aimons à représenter tout à la fois avec la lune sous ses pieds, la couronne de 12 étoiles, un manteau bleu et le dragon à ses pieds. Alors il l'appelle femme, et la phrase la plus dure qu'il va lui dire, c'est « Que me veux-tu ? » Et encore, mes bien chers frères, si nous l'avions lu en grec, ça serait bien pire. « Que me veux-tu ? » c'est une « et » c'est déjà très édulcoré. En grec, il lui dit « Femme, quoi de toi à moi ?» On ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire « Moi je suis Dieu, c'est moi qui dois manifester la gloire de Dieu, c'est mon affaire, et toi, tu n'es qu'une créature. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » C'est moi qui interprète, mais enfin, quoi de toi à moi, c'est tout de même très dur. Enfin, il va lui dire, mon heure n'est pas venue, c'est presque un adoucissement, c'est pour lui expliquer pourquoi il ne va pas le faire, pourquoi ce n'est pas le bon moment. Alors, mes bien chers frères, nous sommes autorisés à nous poser la question, en lisant l'Évangile, pourquoi après lui avoir dit que ce n'était pas son affaire, que ce n'était pas le bon moment, pourquoi le Seigneur fait-il ce miracle ? Alors, des explications les plus saugrenues ont été avancées pour résoudre ce paradoxe. Alors, d'aucuns ont dit que finalement, c'était sa mère, alors bon, il a fini par accepter parce que vous savez comment les femmes sont insistantes, etc. Bon, je ne crois pas qu'on puisse imputer ça au bon Dieu, de se laisser déborder par quiconque, femme ou homme. Des explications plus exégétiques, plus savantes, archéologiques, nous apprennent que le mariage s'étant sûrement déroulé sur un long moment, car on recevait sur plusieurs jours, peut-être une semaine, le Seigneur d'abord a dit oui, et puis après, d'abord a dit non, ensuite a dit oui. Bien sûr, le Dieu éternel, qui connaît toutes choses et voit toutes choses et sait ce qu'il vient faire dans son dessein, aurait changé d'avis même à 10 jours de temps. Non, tout ça n'est pas très raisonnable. Alors je vous propose une explication qui n'est pas une explication dogmatique. Vous savez, nous sommes invités à méditer l'Écriture et à chercher des raisons qui nous éclairent. Je vous en propose une que m'a soufflé quand même saint Thomas d'Aquin. Pas tout à fait une idée personnelle. Il dit que peut-être le Seigneur avait besoin que Marie exprimât ainsi sa demande. Car vous avez vu, elle lui dit « Ils n'ont pas de vin ?» Il lui dit clairement « Non, pas ton affaire, pas le bon moment. » La Vierge ne va pas se rebeller, elle fait une pleine et entière confiance à son fils. Elle ne va pas dire s'énerver ou lui dire que c'est pas juste. Ou... Mais dans la confiance qu'elle a, et malgré cette réponse qui semble étonnante, elle va appeler des serviteurs et leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pourquoi fait-elle cela ? Elle le fait parce qu'elle est persuadée que c'est juste. Elle le fait parce que dans sa conscience libre, elle est certaine qu'il faut le faire. Alors elle ne sait pas comment cela va se faire, mais elle sait que son fils le sait. Alors elle envoie les serviteurs. Et ça marche. Peut-être que le Seigneur a voulu par là que Marie coopéra d'une manière particulière en réintroduisant dans le plan de Dieu ce que la créature avait perdu, la vraie liberté, la droite conscience du bien qui ne saurait jamais s'ébranler devant aucune contradiction. Oui, il me semble qu'en demandant à Marie d'insister et d'exprimer là sa conscience pleine et entière, le Seigneur réintroduit, et notamment dans ce mariage, la vraie liberté qui est de décider ce qui est bien, qui est de vouloir ce qu'il y a de meilleur. Alors, mes bien chers frères, mettons-nous à l'école de Marie, cette mère de l'Église qui, par ce miracle qu'elle a sollicité, va voir s'enfanter l'Église. À partir de ce miracle, l'Écriture nous dit, ses disciples crurent en lui. C'est à partir de là qu'ils sont certains que c'est bien le Messie venu restaurer la promesse faite à Israël et destinée à toutes les nations. C'est à partir de l'enfantement de Marie dans cette liberté pure que le plan de Dieu se met en marche dans l'Église. C'est à partir encore aujourd'hui de Marie que vos unions peuvent trouver cette pleine beauté et cette grandeur de la nature humaine portée à sa pureté. Prions Dieu que Marie nous aide et nous éclaire pour nous aussi pouvoir connaître le bien, le vouloir et mettre tout en œuvre pour qu'il soit réalisé. Ainsi soit-il.